pour reconnecter Martine.
Hey, comment ça va?
À Karim.
Super, pour vrai, ça fait longtemps.
Et Karim, à la bibliothèque.
Oups, excusez.
Il y a la STM, la meilleure façon de se reconnecter.
Bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blanc au micro et Nicolas Fartman à la technique. Oui, c'est mes crédits. Stéphane Baudry est avec nous en studio. Content de le revoir. Et donc, il va nous parler du théâtre La Comédie de Montréal en première partie d'émission. Comme tous les mercredis, il nous parle de quelque chose, plein air et loisirs. Aujourd'hui, c'est pas plein air, mais c'est loisirs. Voilà, et puis en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Jean Lesage, le grand compositeur. Il y aura un spectacle le 27, si je ne me trompe pas, le dimanche, La mémoire équivoque, portrait de Jean Lesage, présenté par la Société de musique contemporaine du Québec, SMCQ. Alors, il sera avec nous en deuxième partie d'émission pour parler de ce... Bon, c'est un honneur, c'est un hommage, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, ce spécial Jean Lesage, voilà, et un monsieur qui plaît à beaucoup de gens, qui aiment... genre de musique, c'est un grand compositeur. On va aller tout de suite en musique avec Catherine Finch, et avec la complicité de Sekou Keïta. Catherine Finch, c'est une harpiste, hein. Voilà, cette harpiste galloise qui a été d'ailleurs de 2000 à 2004 l'harpiste officielle du prince de Galles. Voilà, hein, ouais. Elle collabore maintenant avec Sekou Keïta, qui est un choraïste sénégalais bien avant lui. Elle collabora avec Toumani Diabaté, c'est les grands choraïstes de l'Afrique. Toumani Diabaté, je pense bien qu'il est guinéen ou bien je ne sais quoi, mais Sekou Keïta, c'est un sénégalais. Et Catherine Finch, c'est une galloise. Allez, on va tout de suite avec la pièce Teranga Ba. Thank you.
Si tu sais mon yé, nané lu yélé, na te ya. Nané lu yélé, na te ya.
Merci beaucoup à ce duo Catherine Finch avec la complicité, Catherine Finch à la harpe et puis Sekou Keïta à la kora Teranga Ba. Voilà, comme je disais en début d'émission, Stéphane Baudry est avec moi en studio aujourd'hui, il n'est pas au téléphone, il va nous parler du théâtre de la Comédie de Montréal parce qu'il est allé voir un spectacle là-bas.
Oui, plusieurs.
Plusieurs d'ailleurs, voilà, donc ce n'était pas une découverte, il connaissait déjà le théâtre, il est allé voir... alors il a fait ce choix, je ne vais pas lui demander pourquoi ce choix, il va nous parler de ce théâtre et puis bon, des pièces qu'il allait voir aussi et puis l'emplacement de ce théâtre là qui est vraiment idéal en plein quartier latin on peut le dire. Bonjour Stéphane Baudry.
Bonjour Fulgence,
oui.
Ça va bien?
Oui, ça va bien, merci. Et toi?
Très bien, merci.
Voilà. Oui, alors tu nous as choisi le théâtre de la Comédie de Montréal.
Oui, c'est un théâtre que j'ai découvert avant, disons, tous les événements de la pandémie et tout,
oui.
Et même que même pendant, quand il y a eu un peu de, on va dire, quand on a baissé un peu les restrictions, l'été dernier, l'été 2020, on pouvait aussi aller en profiter, parce que c'est pas une immense salle, donc pour eux, ouvrir pour 50 personnes, c'était bien. Alors, à l'origine, c'est l'artiste Jamin Chtouki, qui est de nationalité belge-marocaine,
oui.
Qui avait déjà connu un parcours prolifique en Europe avant de débarquer à Montréal en 2016.
Oui.
Il a commencé sur scène en 1992. Il a présenté plusieurs spectacles à succès pendant 14 ans au Festival d'Avignon en France et a joué aussi en 1995-96 à Paris au Théâtre d'Edgar. Et sitôt arrivé à Montréal, il crée le Théâtre de la Comédie de Montréal.
Oui, oui.
Donc, c'est quoi? C'est un théâtre dédié à l'humour, aux comédies de vaudeville, au cœur du quartier latin. Alors, c'est comme un peu souvent un théâtre d'été, mais toute l'année et au centre-ville. Ça se trouve à être au 11-13 boulevard de Maisonneuve-Est à Montréal. Alors, c'est sûr qu'en voiture, il y a un stationnement à Place du Puy, entrée rue Saint-Hubert, mais on peut y aller aussi par les métros Baudry et Berry-UQAM.
Oui.
Et il y a aussi des arrêts d'autobus. Il y a la 14 et la 15 qui amènent dans ce coin-là.
Ça se fait très bien en transport.
Ça se fait très bien.
Ça fait très bien en transport.
C'est la meilleure façon, je crois, de se rendre là.
Oui. Ouais, ben en voiture, quand même. Moi, j'étais allé en voiture. Ben, je me suis débrouillé. Il faut connaître le quartier. Hein,
ouais.
Pour arriver à parquer tranquillement sans se faire mettre une contravention, quoi. Voilà.
Oui. C'est un endroit très sympathique. On parle d'une salle de 89 places en formule cabaret.
Oui.
Ça veut dire des petites tables et tout. Et avec la situation actuelle, ça permet à des groupes de personnes de se rassembler autour d'une table en s'assurant une certaine distance entre les autres groupes. Alors, si on réserve, disons, pour 4 personnes, ils vont mettre 4 chaises autour d'une table.
Oui.
Et ils vont vraiment faire des petits îlots de table comme ça dans la salle. Alors, c'est très bien fait. Ça permet justement, on sait que là, présentement, des fois, la situation évolue rapidement. Je trouve que c'est une belle approche. Ils n'ont pas besoin d'avoir 300 personnes pour être rentable.
Oui.
C'est une petite salle et on l'apprécie bien. Mais quand même, il y a plusieurs humoristes qui font le rodage de leur spectacle avant de les présenter sur des plus grandes scènes.
C'est ce que j'ai remarqué d'ailleurs quand j'étais allé là-bas. Voilà.
Oui, c'est intéressant parce que...
Quand j'ai vu la programmation, je me suis dit, bon, ben pourquoi pas?
Oui.
Ouais.
Parfois, il va y avoir comme 3 humoristes. Il y en a peut-être un qu'on connaît un peu plus, les 2 autres un peu moins.
Oui.
Mais ça fait vraiment... faire des belles découvertes. Et Puis en même temps, même pour ceux les plus connus, ben, ils présentent en primeur leur texte. C'est plus, je dirais, c'est peut-être des fois moins raffiné, mais des fois, c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'ils font depuis le début.
Oui.
Depuis le début de leur processus de création. Mmh. Alors, c'est vraiment intéressant pour ça.
Mmh.
Les pièces de théâtre aussi sont souvent inédites et divertissantes. Les textes sont souvent écrits par les gens là-bas. Ils ont aussi une pièce qui est basée sur un livre bien connu, qui est les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Et ça fait un immense succès à ce théâtre-là. Là. C'est vraiment drôle parce que...
Il doit faire ça le comble.
Oui, mais c'est ça, parce que c'est intéressant comme sujet et c'est sûr et certain que ça promet beaucoup de discussions après le spectacle.
Ah! Avec les artistes?
Non. Je veux dire, entre, disons, un couple volant, oui. Ça parle des hommes et ça parle des femmes.
Ah,
ouais,
d'accord.
Ça fait partir beaucoup de discussions là-dessus aussi.
Mais, je comprends. Je comprends, oui.
Mais oui, effectivement, souvent, après l'épisode de théâtre et les spectacles, les artistes vont aller où est-ce qu'il y a comme un bar, où est-ce qu'on peut aller se rafraîchir et tout.
Oui, oui, juste à l'entrée à trois, je sais pas, c'est toujours au même endroit, là.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, un petit, dans le fond.
Petit coin, là, voilà.
C'est ça, puis on peut même aussi demander, aussi, on peut apporter notre verre à la table pendant qu'on regarde le spectacle. Mm. Mais c'est quand même intéressant aussi de discuter avec les artistes à la fin, après la pièce de théâtre.
Oui, oui.
L'épisode de théâtre aussi, c'est sûr que lui... Le propriétaire étant, comme je disais, belge et marocain, il y a comme, je dirais, un mélange des deux cultures. Et entre autres, il y a une pièce qu'il présente actuellement qui est Couscous au bacon. Et c'est justement...
Couscous au bacon.
Oui, c'est ça. C'est comme les cultures s'affrontent dans une avalanche de quiproquos entre comme deux familles qui n'ont pas tout à fait les mêmes croyances et la même culture. Alors, c'est quand même très intéressant. Et souvent, ça paraît léger, parce que ça reste du vaudeville, mais il y a toujours quelque chose en arrière qui, au second degré, qui vient quand même nous chercher, porte à réflexion.
Oui.
Les spectacles sont généralement du lundi au samedi à 20h, puis et dimanche à 16h.
OK.
Puis, pour le site, il y a un site pour connaître la programmation, parce que c'est pas tous les soirs qu'il se passe quelque chose, parce que aussi on peut louer la salle. Ceux qui ont besoin de la salle pour faire autre chose.
Pour faire autre chose, pour la visiter. Il n'a rien à voir avec l'humour ou bien quelque chose comme ça.
Ou qui va carrément présenter un spectacle aussi.
Un spectacle aussi.
Il va se servir de la salle. Alors, le site pour voir tout ça et la programmation, c'est lacomédie, en un seul mot, .ca.
OK. Pas de théâtre, la comédie, en un seul mot.
Lacomédie.ca. Et l'admission générale, normalement, est de 30$. Par personne, qui pour un spectacle, pour une pièce de théâtre ou un spectacle d'humour, c'est quand même très bien. Il y a un prix étudiant et membre de l'Union des artistes qui est à 24$. Il y a aussi un prix de groupe là, pour si on est plusieurs.
Il va falloir que je sorte ma carte de l'Union des artistes la prochaine fois si je vais là-bas. Parce que...
Oui, il faut le savoir.
Il faut le savoir. Ouais.
Puis c'est ça. Puis c'est, comme je disais, il y a un bar, alors c'est quand même intéressant aussi. C'est fait sans flafla. C'est vraiment, vraiment, vraiment très agréable comme endroit. Mmh. Et les gens sont très sympathiques.
Oui, comme je te disais, donc quand on était dans la salle de conférence, il fait des chroniques ici tous les lundis à l'émission de ma collègue Arlette. Chez l'émission Les Faramineux tous les jours de 17h de 16h à 17h. Lui, il est là les lundis. Tous les lundis, je le vois ici.
Il est tellement drôle, il est tellement sympathique.
Presque tous les lundis.
C'est quelqu'un là, qui va parler avec tout le monde. Il est drôle.
Ouvert et...
Vraiment.
Sans aucune prétention.
Exactement.
Vraiment, voilà.
C'est vraiment... la Comédie de Montréal, c'est définitivement un endroit chaleureux qui gagne à être connu. C'est une magnifique occasion de découvrir des artisans de la relève qui passent une soirée très agréable dans un cadre convivial.
Merci beaucoup, Stéphane.
Merci, Fulgence.
On se retrouve la semaine prochaine.
Oui.
En studio.
Ben oui.
Voilà. À moins que tu aies une réunion. Presque à l'heure de l'émission, quoi. Ou bien juste un peu, juste de l'annonce. C'est ce qui fait que tu ne t'es pas la semaine passée. Merci à toi. Oui, ça peut arriver.
Ouais.
Merci beaucoup à toi. Et puis on se retrouve mercredi prochain.
Oui.
Bonne soirée et bon reste de semaine.
Merci. Bonne soirée, bonne semaine.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Hope a little harder. spark will go my way. Come a little closer. Holding on, you will save the day. 'Cause you
c'est la CEO Hope et Little Harder. Je pense que j'ai quelques minutes de blabla avant de passer à la prochaine pièce musicale. Alors moi, quand j'ai appris la nouvelle ce matin, je me suis dit « Oh zut !» Voilà, ça, vraiment, je l'ai dit. J'ai dit « Oh zut !» La jeune Australienne numéro 1 de tennis. Oui, Ashleigh Barty prend sa retraite à 25 ans. Ouais. Elle a fait l'annonce. Elle a fait l'annonce... c'est fini pour elle. Elle a dit non, il y a une autre vie après le tennis, quoi. Ça dit qu'elle a épuisé. Oui, c'est ce qu'on sent. J'en parle quelquefois ici avec notre chroniqueuse de sport, Myriam. On dit ces jeunes, la nouvelle génération, avec tout ce qu'on a vécu avec le virus, le maudit virus, comme je l'appelle. c'est pas des filles qui vont faire, qui vont jouer, c'est pas des gens, des jeunes gens qui vont jouer jusqu'à 30 ans, 40 ans, 35, 36, là. C'est pas évident. Voilà, alors c'est vraiment... Alors, on lui, elle est déjà à la retraite, la numéro 1 mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty, qui a créé... Là, tout le monde a été surpris, hein. Tout le monde a été surpris quand la nouvelle est tombée. Et elle donne des entrevues déjà pour, donner, pour dire aux gens pourquoi elle arrête. Parce qu'elle a envie de vivre autre chose. Elle n'a plus... Elle est épuisée, elle n'a plus cette motivation. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, il ne faut pas oublier, la jeune japonaise Naomi Osaka, c'est pareil. C'est cette motivation d'avant, des premières années où on a pu décrocher des trophées par-ci, par-là. Bon, ouais, voilà. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, quoi. On est tous des humains. Le tennis, la vie ne s'arrête pas sur les cours de tennis, quoi. Bon, elle a réussi à quand même faire ce qu'elle elle avait à faire. Ouais. Ouais. Oui, oui. Son palmarès, 15 titres en simple, dont 3 grands chelems. Roland Garros, Wimbledon et dernièrement l'Open d'Australie, où aucune Australienne ne s'était imposée en 44 ans. Voilà. Je dis bravo. Ashleigh Barty, c'était une de mes joueuses de tennis préférées. Hein. Et puis, avant d'être la reine du simple, elle a également brillé en double, remportant 12 titres et un grand chelem. US Open, 25 ans déjà. Oui, ça c'est, il faut le dire, c'est on ne lui en veut pas. Moi, les gens vont se dire, ouais, elle est numéro 1, pourquoi elle arrête? Non, 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 il n'est pas. Elle dit, je suis tellement heureuse, je suis tellement prête, et c'est juste maintenant dans mon cœur qu'en tant que personne, c'est la bonne décision. Ah oui, en larmes, hein, pour cette vidéo, sommet numéro 1 mondial, et puis tu arrêtes, c'est que vraiment, elle a bien mûri sa réflexion avant de prendre ses décisions. Était devenue la première Australienne, comme je l'ai dit, à 44 ans, à s'imposer à Melbourne. Le succès pour moi, c'est savoir que j'ai tout donné, tout ce que je pouvais. Je suis comblé, je suis heureuse, et je sais combien de travail il faut pour donner le meilleur de soi-même. Ouais, absolument épuisé. C'est juste que je n'ai plus ça en moi, je n'ai plus d'énergie physique, je n'ai plus la volonté émotionnelle et tout ce qu'il faut pour se dépasser au plus haut niveau. Ouais, c'est vraiment. Moi, j'étais un peu scotché sur ma chaise là. Je dis waouh. Ouais. Et c'est comme ça. Je quelquefois dit ici, il faut savoir prendre les décisions dans la vie dans ce genre de situation. Et c'est ce que je disais hier, Nicolas. Tu te rappelles à la fin de l'émission? Il faut être à l'écoute de la petite étincelle de vie en nous. Voilà, et c'est ce qu'elle a fait. Et je vais lui souhaiter, on va lui souhaiter bon vent, bonne réussite. Et puis bon, ben, ça va servir à beaucoup d'autres athlètes aussi qui sont dans la même situation, épuisés, fatigués, plus d'émotions, de dire « Ouais, je raccroche, je vais passer à autre chose dans la vie. » Musique.
Je guette la cime des arbres, les pieds dans le marécage. Monter des marches, gravir des étages. Ça demande de la volonté, du calme dans un esprit sage et sage. De garder le cap, rater le terrain, confirme mes pas tant que je me souviens. Faut pas griller l'étape, ni forcer le destin. Avant que je parte, je regarde d'où je viens. Tout ou rien, ici c'est la loi de la jungle. Moi je me sens pas si terrien, très bien, je grimpe même si c'est casse-gueule. Je peux viser la canopée, essayer d'y voir plus clair. J'y serai de Dieu sur terre.
Ouais, je veux
viser la canopée.
Essayer d'y voir plus clair.
Face à un ciel dégagé, je veux m'échapper. J'y serai de Dieu sur terre.
Ici, on soigne la plante tropicale. Mystique, elle est optimale. Profite du repos dominical. On chante, on chill entre cigales. J'irai me poser en haut d'un séquoia. Planté aux sources de Sophia. Plus grand que l'Himalaya. Plus vieux que le peuple.
Plus clair, face à un ciel dégagé, je veux m'échapper.
échapper, j'y serai de Dieu sur terre. Et
ouais, je veux
viser la canopée,
essayer d'y voir plus clair.
Face à un ciel dégagé, je veux m'échapper, j'y serai mieux que sur terre. Tenir les distances, l'adrénaline est un effet puissant. Je cherche des prix sans réticence. Tout peut arriver, mais y a pas d'évidence. Mais l'inconnu, ça peut être excitant. C'est pas la chute qui compte, c'est la résistance. Et si je tombe, je recommence. D'en bas de cette terre sauvage, je guette la cime des arbres, les pieds dans le marécage. Monter des marches, ha, gravir des étages. Ça demande de la volonté, du calme dans un esprit sage. C'est viser la canopée,
essayer d'y voir plus clair.
Face à un ciel dégagé, je veux m'échapper, j'y serai mieux que sur terre. Et
ouais, je veux
viser la canopée,
essayer d'y voir plus clair.
Face à un ciel dégagé, je veux m'échapper, j'y serai mieux que sur terre.
Restez à l'écoute, là on vient d'écouter Volodia, la canopée. Restez à l'écoute, après la petite pause publicitaire, on reçoit Jean Lesage, compositeur, spectacle, La mémoire équivoque, bien sûr, portrait de Jean Lesage présenté par la Société de musique contemporaine du Québec. Allez, à tout de suite, restez à l'écoute.
Pour reconnecter Diego.
Salut tout le monde, ça va bien?
À ses collègues.
Hey, allô le petit nouveau.
Et ses collègues, à Diego.
C'est parce que ça fait 7 mois que j'ai commencé.
Il y a la STM, la meilleure façon de se reconnecter.
Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Avant de devenir compositeur, j'ai été pendant plusieurs années un interprète enthousiaste au clavecin, à l'orgue et au clavicorde. La connaissance de ce répertoire, ça a eu un impact considérable sur ma façon de penser la musique, ma façon de penser le discours en musique. L'art baroque, c'est d'abord un art très théâtral, un art basé sur le contraste, sur le mouvement. C'est un art aussi qui emploie des thématiques spectaculaires. Dans plusieurs de mes compositions, j'ai essayé de faire une sorte d'adaptation en musique de ce langage, de ce type de discours qu'on trouve dans l'art baroque. La mémoire est au cœur de ma démarche. Je cherche à réinterpréter des codes historiques avec une sensibilité, avec une oreille actuelle. J'ai toujours essayé d'établir une sorte de dialogue entre le présent de l'œuvre et le passé de l'art. Ça peut se faire par le biais de la parodie, ça peut se faire par le biais d'une contextualisation inattendue des objets sonores. Il y a certainement un aspect très ludique dans ma musique. J'essaie aussi de mettre en scène des personnages sonores. Des personnages sonores qui seraient évocateurs de certains styles, de certaines icônes de l'histoire de la musique. J'ai jamais considéré ça comme une forme de nostalgie. Ce que j'essaie de faire, c'est d'effacer la frontière entre différentes couches temporelles, d'effacer les frontières entre le présent, le passé et notre vision de l'avenir. C'est certain que le fait d'avoir accès aux musiques de toutes les époques, de toutes les cultures, ça a eu un impact considérable sur ma façon de penser la musique. Les oppositions entre tradition, nouveauté, intuition, rigueur, simplicité, complexité, tout ça, c'est pour moi générateur de mouvement. Ces contradictions ou cette dialectique participent au même geste, c'est-à-dire l'exploration libre de l'imaginaire sonore.
Oui, la voix que vous venez d'entendre, c'est la voix de mon invité, Jean Lesage, le grand compositeur. C'est un monsieur que j'adore beaucoup. J'ai découvert sa musique. J'ai dit, waouh, ok. Et là, faut pas. Le spectacle Mémoire, ouais, la mémoire équivoque, c'est le portrait de Jean Lesage présenté par la Société de musique contemporaine du Québec, SMCQ. Là, et je ne sais pas comment il se sent à quelques jours de. Est-ce que je peux appeler ça spectacle hommage? Il peut nous le dire. Bonjour, Jean Lesage.
Bonjour, monsieur.
Appelez-moi simplement Fulgence. Alors, vous venez d'écouter votre voix vous-même.
Oui, mais c'était une excellente idée. Ça fait un beau résumé.
Oui, oui, oui. Alors, comment on se sent quelques jours de ce grand spectacle?
Bon, on se sent un peu nerveux, certainement. Je sors à l'instant d'une répétition.
Oui.
Alors, on avait une répétition aujourd'hui. Ça s'est super bien déroulé.
Oui.
Mais c'est toujours, écoutez, c'est avoir un concert hommage, un concert monographique où il y a seulement, au programme seulement de ma musique.
Oui.
Et c'est vraiment, c'est un honneur, bien sûr. Mais bon, ça nous met un peu des papillons dans l'estomac, il n'y a pas de doute.
Oui. Comment est-ce que vous avez réagi quand la SMCQ vous a contacté?
Bon, c'est le directeur artistique de la SMCQ, Valter Boudreau,
oui.
Qui m'a contacté. Et, il m'a écrit un mail, puis il m'a dit « Ah, je pense que j'ai une bonne nouvelle pour toi.
Oh » Et puis oui, vous avez dit oui, ok,
oui,
je vous
oui,
ai dit.
Oui,
ah, Valter Boudreau, oui, l'enfant terrible.
Exact.
Oui. Ouais. Ah là là, je dis non, quand c'est comme ça, là, il y a des gens qui n'aiment pas les hommages, hein. Il y a des gens qui disent de mon vivant, non, quand je ne serai plus là, oui, d'accord, mais c'est quelque chose comme ça. C'est pourquoi oui. Je vous ai demandé comment vous avez réagi, quoi.
Personnellement, j'aime bien les hommages parce qu'on peut, en une heure et demie,
oui.
on fait vraiment le tour d'une pensée créatrice.
Oui.
Et c'est un peu comme ça que j'ai voulu organiser le programme aussi. J'ai fait une rétrospective, je dirais, de ma démarche créatrice depuis une trentaine d'années, je dirais.
Oui.
Et donc, on va pouvoir entendre vraiment diverses approches, oh. diverses façons de penser la musique. Que j'ai développé tout au long de ces années.
Oui, oui, oui. Est-ce que c'est la SMCQ qui fait le choix des artistes qui vont jouer vos pièces ou bien c'est vous qui dites non, moi je veux telle personne, je veux telle personne, je veux telle personne?
C'est une excellente question. Généralement c'est l'ensemble qui l'institution
oui.
choisit les interprètes.
Oui.
Dans le cas, Valter m'a demandé si j'avais des préférences.
Mm-hmm.
En fait, ce que j'ai choisi, ce sont les solistes, en fait.
Ah, d'accord.
Je n'ai pas choisi les musiciens qui jouent dans l'orchestre.
Oui.
Mais il y a quelques solistes, donc, que j'en ai discuté avec Valter. J'avais envie de travailler, par exemple, avec la soprano Magali Simard-Galdès.
Oui.
J'avais entendu et j'aimais beaucoup sa voix.
Oui.
Et ça fonctionnait. J'ai un quatuor à cordes aussi qui va être joué. J'ai une longue collaboration avec le quatuor Bosini à Montréal.
Oui.
J'ai demandé à Valter si c'était possible de jouer avec eux. Il n'y a pas eu de problème. Il y a le clarinettiste James Campbell qui va se joindre à eux. Ça aussi, c'est mon choix.
Oui.
Mais le reste, tous les musiciens d'orchestre, par exemple, c'est le choix de la CMCQ.
Oui, oui, oui. C'est un univers gélien de haut. J'ai vu un reportage sur vous, là, sur le site de mycena.org. Et vraiment, j'ai dit, ils ont tellement bien décrit votre parcours. Je me suis dit, waouh. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert sa musique, pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas, parce que d'abord, avant de partir, avant de continuer, il faut que je retrouve ma bio rapidement là pour que je puisse parler un peu de son parcours, parce qu'il y a les gens qui l'ont formé, les gens qui l'ont formé. Vous avez fait vos études de composition au Conservatoire de Montréal auprès de Gilles Tremblay, Clermont Pépin, Micheline Coulombe, Saint-Marc et Yves Daou pour la composition et avec Mireille Lagacé pour le clavecin.
Oui, exactement.
C'est des gens, c'est des grosses têtes comme ça qui vous ont formé.
Oui, des gens très inspirants, il n'y a pas de doute.
Oui.
Mon principal professeur a été Gilles Tremblay.
Oui.
Avec qui j'ai étudié 4 ou 5 ans.
Oui.
Et c'était un homme très inspirant, un poète de la musique, je dirais. Mmh. Et c'est quelqu'un qui nous a tous, à tous ses élèves, qui nous a insufflé un goût de la découverte, d'une part, et une grande ouverture d'esprit à tous les répertoires musicaux,
oui.
Que ce soit la musique classique, la musique extra-occidentale, la musique de Bali ou la musique javanaise.
Oui.
Donc, ça a été quelqu'un qui nous a vraiment ouvert l'esprit. Mm-hmm. Et ça, je suis très reconnaissant pour ça.
Waouh. Vous êtes très actif sur la scène musicale montréalaise. Vous avez été responsable de la programmation à la Société des concerts alternatifs du Québec, membre du comité artistique de la Société de musique contemporaine du Québec entre 1990 et 2011. C'est pas deux jours, hein. C'est... Vous avez été également chroniqueur à l'émission musique actuelle de la radio FM de Radio-Canada de 87 à 95.
Ah oui, il y a quelque chose qui nous rejoint, là. J'ai fait de la radio.
Oh là! Je me dis, Jean Lussain, c'est un collègue.
Exactement.
Et entre 97 et 2008... Ouais, entre 97 et 2008, vous avez été rédacteur en chef invité à la revue Circuit, revue nord-américaine, oui, de musique du XXe siècle.
Oui,
et vous êtes membre du comité de rédaction de cette revue depuis 2005.
Exactement. Oui, c'est une revue qui s'intéresse à la musique contemporaine.
Oui.
Et c'est la principale revue de langue française en Amérique pour ce genre de recherche en musique contemporaine.
Ouais, c'est en français, c'est pas en anglais.
Exactement.
Oui, et vous êtes, vous avez été compositeur invité, professeur aux rencontres internationales de musique nouvelle du domaine forgé aussi.
Oui.
Et professeur de composition et d'orchestration à l'école de musique Schulich de l'Université McGill depuis 1999.
Exactement, ça c'est mon principal métier, donc d'enseigner et de partager ma passion pour la musique avec de jeunes compositeurs.
Mais quand est-ce que vous allez arrêter, Jean?
Bon, tout ce que... c'est ennuyeux de s'arrêter.
Oui.
J'espère de pouvoir continuer encore un bout de temps. Là.
Oui, oui, vous avez encore à donner aux étudiants.
Ah, exactement.
Wow.
Et on donne et on reçoit beaucoup aussi des étudiants. Hein.
Oui, oui.
Pas de doute. C'est le plaisir d'enseigner, c'est donc cet échange et de se renouveler grâce au contact de ces jeunes.
Oui, oui, oui. Votre carrière internationale, un peu partout, en France, en Allemagne, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il touche à tout. Mais vos étudiants, est-ce qu'il y a des étudiants quelquefois qui vous disent, monsieur, j'ai appris telle chose, grâce à vous, je vais continuer dans le domaine. Ou bien il y a des étudiants, est-ce qu'il y a d'autres qui viennent vous voir, tu dis, ah, moi, je ne pense pas que j'ai fait le meilleur choix. Si un étudiant vous vient vous voir dans ce cas, je n'ai pas fait le meilleur choix, quel genre de conseils vous lui donnez pour qu'il puisse avoir la motivation pour se remettre sur les selles?
C'est une vraiment très bonne question. Écoutez, ça varie évidemment beaucoup d'un étudiant à l'autre.
Oui.
Moi, j'ai toujours une approche assez franche avec mes étudiants.
Oui.
Et je leur dis, c'est pas tous les compositeurs qui peuvent gagner leur vie en faisant de la composition.
C'est ça.
En musique classique, en musique contemporaine. Mm. Il faut toujours avoir plusieurs cordes à son arc.
Oui.
Et je les encourage toujours à regarder d'autres domaines parallèles.
Oui.
Où est-ce qu'ils pourront se développer et gagner leur vie. C'est pas toujours facile de gagner sa vie en faisant de la composition.
Oui. Oui.
C'est une conversation assez franche que j'ai avec eux.
Oui.
Ça dépend aussi du. On voit comment les étudiants sont aussi, comment ils sont préparés à affronter le milieu professionnel.
Oui.
C'est pas juste avoir du talent en musique, je dirais. Il faut évidemment, c'est la base. Il faut avoir un talent certain et profond comme compositeur, comme musicien.
Oui.
Mais il y a tellement d'autres aspects qui entrent en ligne de compte si on veut fonctionner dans ce milieu-là.
Mm-hmm.
Il faut avoir un sens de l'organisation. Il faut être capable de se construire un univers de relations sociales.
Mmh.
On peut pas rester enfermé chez soi et attendre que les gens viennent cogner à la porte pour nous commander des œuvres. Hein. Ça fonctionne pas comme ça.
Oui.
Il faut faut donc avoir être capable de s'extravertir, je dirais, puis d'avoir des réseaux pour communiquer avec des interprètes, avec des associations qui organisent des concerts. Il y a beaucoup de facettes qui entrent en ligne de compte qui sont indépendantes du talent musical.
Oui. Jean Lesage, le compositeur philosophe des temps modernes. Comment vous réagissez à ça quand on vous traite de compositeur philosophe?
Ben, je suis évidemment flatté.
Ouais.
C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à... Bon, je m'intéresse bien sûr à la composition, mais à toutes les influences que le compositeur peut subir de d'autres formes d'art,
oui.
De d'autres formes de pensée. Je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la peinture, par exemple.
Oui.
Il y a plusieurs courants picturaux qui ont été fondamentaux pour l'élaboration de mon propre discours musical.
Mmh.
Je m'intéresse à la littérature. Et je dirais que j'ai subi plus d'influence d'autres formes d'art.
Oui, c'est parce que, je ne vous coupe pas la parole, juste pour compléter ce que vous dites, c'est parce que vous mélangez la philosophie, la littérature, la peinture et les arts plastiques.
Exact. Oui. Et je suis allé puiser de l'inspiration dans ces disciplines.
Dans toutes ces disciplines-là, oui.
Oui.
Wow. On va vous écouter encore.
D'accord.
Et puis on vous revient. Ernest, oui. À tout de suite. Oui.
À tout de suite.
Jean Lesage, Vanitas.
Oui.
Bon, Jean Lesage, le compositeur, philosophe, compositeur. Ah, il est toujours, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je suis avec mon invité Jean Lesage qui est compositeur. C'est la Société contemporaine de musique, la Société de musique contemporaine du Québec, la SMCQ, qui lui fait un hommage, la mémoire. Le spectacle s'appelle La Mémoire, équivoque, portrait de Jean Lesage. Ça va être le dimanche, c'est bien ça?
Oui.
Le 27.
Ouais. À 15h.
À 15h, voilà. Une belle après-midi en compagnie de ces grands artistes. Et puis, voilà, vous n'allez pas le regretter si vous faites le déplacement. Ça se passe où?
C'est à la salle Pierre-Mercure,
oui.
Entre Pierre Péladeau.
Oui.
C'est au métro Berry-UQAM.
Berry-UQAM, là, c'est 300 de Maison Nouvelle, si je ne me trompe pas.
Exact.
Oui. Oh, voilà. Donc, vous n'allez pas rater, c'est juste en face de l'ancien, c'est pas l'ONF ou bien je ne sais quoi.
Exact, oui, c'est en face.
Voilà, c'est facile à trouver.
Oui.
Voilà, donc, alors, quand on écoute ce genre de pièce, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire encore. Je ne sais pas. Ces déplacements l'ont emmené en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Angleterre, en Italie, en Autriche, tous ces pays-là. Plusieurs de ses œuvres sont issues de commandes de l'ensemble contemporain de Montréal et de Nouvelle-Orléans. Je me suis dit, si je veux parler de sa bio, je finirai pas, je n'arriverai même pas à faire l'entrevue avec lui parce qu'il y a tellement de choses à dire sur lui. Bon, qu'est-ce que représente le passé et le présent pour vous?
Bah, ça m'intéresse. C'est une source d'inspiration pour ma création.
Oui.
Je pourrais dire que je compose de la musique. Ma musique parle de la musique.
Oui.
Donc, ma musique s'intéresse à l'histoire de la musique. On retrouve ça dans la littérature. Hein. Il y a des écrivains qui s'intéressent, qui parlent de littérature. On pense à Borges, on pense à Italo Calvino.
Oui.
Il y a des peintres qui intègrent des peintures de l'histoire de l'art,
oui.
Qui vont revisiter ces œuvres-là,
mm-hmm.
À travers le prisme de leur propre imaginaire.
Oui.
Donc, j'aime bien justement essayer d'effacer les frontières entre le passé de l'art, le présent de l'œuvre,
oui.
et les visions qu'on peut avoir de l'avenir.
Oui.
Donc, c'est une rencontre de différentes couches temporelles, je dirais, dans ma musique. C'est vraiment vers ça que je tends, de faire cohabiter l'ancien et le nouveau.
Oui. Ouais. Ouais.
Et ça, je pense que c'est une attitude aussi qui va dans le sens de vouloir communiquer avec l'auditeur. C'est-à-dire de partir de matériaux qui peuvent sembler familiers,
oui.
Comme un passage qui pourrait rappeler un peu la musique baroque, par exemple, ou un passage qui pourrait rappeler la musique classique, et à partir de ce passage-là, de le transformer, de l'amener plus loin,
mm-hmm.
de le défamiliariser, je dirais,
oui.
de créer une sorte d'univers onirique autour de ça.
Oui.
J'aime bien prendre l'exemple de la peinture surréaliste.
Oui.
J'allais
en venir. Non, on y va en même temps, le surréalisme.
Oui, absolument.
Mm-hmm.
Quelles sont les fondations de plusieurs peintres surréalistes?
Oui.
C'est qu'ils prennent des objets qui sont extraits, qui viennent du familier, je dirais,
oui.
de la vie de tous les jours.
Mm-hmm.
On a, dans les œuvres de Quirico, par exemple, on a une horloge, on a une statue,
oui.
on a un train, et tous ces objets-là, pris individuellement, sont plutôt banals,
oui.
Mais c'est lorsqu'on les réunit dans l'espace du tableau, lorsqu'on les décontextualise et on les replace dans l'espace du tableau et qu'ils se côtoient, ils prennent un sens différent.
Oui.
Ils prennent un sens plus onirique.
Mmh.
Et c'est un peu comme ça que je fonctionne en musique, mmh. avec différents styles musicaux,
oui.
que je revisite et que je recontextualise pour leur faire prendre un sens différent de ce qu'ils avaient dans leurs origines.
Oui, bah, je vais profiter pour lire un texte de Serge Provost. Vous savez qui c'est?
Oui, bien sûr, c'est un de mes bons amis.
Oh là.
qui est aussi compositeur.
Oui, d'accord. Il dit, sur les rivages de la création, le temps dépose une écume remplie de petits éclats. Ils sont faits de matières étranges et diverses. Ici, on retrouve le fragment d'un motif, l'esquisse d'un geste, de là et là, le reflet de couleurs passées comme des regards perdus qui sondent le temps, faute de pouvoir s'y poser. Objet hétéroclite, désuétitude, désuétude, nostalgie, le poète, compositeur contemple des cristallisations de l'esprit. Il les interroge, leur réinvente une histoire. Il rêve. Ça, c'est une partie. De ces cogitations naissent d'énigmatiques mosaïques où les êtres sonores surgissent de façon un peu mystérieuse. Cadence télescopée, rendement suspendu, j'ai pris ça sur votre site. Très fusée, dissonance non résolue. À d'autres moments, les époques s'entrechoquent brièvement, ce qui rend tout à coup bien relative la notion d'anachronisme. En fait, la musique de Jean Lesage semble, avant tout, toute chose, nous parler du temps, celui de l'instant fugitif qui se répercute sur les autres et dont les traces successives laissées dans la conscience forment le discours. Lesage réinvente un temps imaginaire et libre comme celui du rêve qui semble flotter comme une question sans réponse. Serge Provost.
Ouais, c'est un très beau texte qui décrit à merveille ce que j'essaie de faire dans ma musique.
Oui, un très bon ami à vous.
Oui, tout à fait. Voilà. Un garçon, un homme très sensible,
oui.
qui a, je pense, bien compris ma démarche artistique.
Votre démarche artistique, oui, effectivement.
Exact.
Je vous souhaite un très bon spectacle.
Merci infiniment.
Ce dimanche.
Merci.
Et puis, moi, je vais voir mon emploi du temps. Je n'ai pas envie de rater ça.
Vous êtes le bienvenu.
Et puis, bon, au plaisir de vous réentendre pour d'autres projets.
D'accord, merci de l'invitation.
Avec plaisir. Bonne soirée à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Then the rainstorm came over me. I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see, and realized my mistake. But time, through a prayer to me, and all around me became still. I need love, love's divine. Please forgive me now, I see that I've been blind. Give me love, love. To help me know my name. Through the rainstorm came sanctuary. And I felt my spirit fly.
Oui, ça c'était Seal, Love Divine. Voilà, merci beaucoup à Stéphane Baudry qui est venu nous parler du théâtre La Comédie de Montréal et de notre invité, Jean Lesage, compositeur et philosophe des temps modernes. Spectacle, oui, ce dimanche 27 à la salle Pierre-Mercure. Mercure, hein, si je ne me trompe pas. Merci à toi, Nicolas.
Pour reconnecter Simon et Pierre-Luc à...
Deux relish moutarde puis de liqueur.
Et surtout à ça.
Yeah! Voyons, j'ai plus de voix.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.